Raconte-nous la forêt. Au-delà des arbres et des sentiers, qu'éveille la forêt en nous ? Nous allons à la rencontre de celles et ceux qui vivent avec elle, s'en inspirent, s'en imprègnent. Ils sont forestiers, marcheurs, bûcherons, chercheurs, naturalistes, citoyens, professionnels des Hautes-Alpes. Ensemble, écoutons la forêt à travers les voix humaines qui la peuplent de sens. Raconte-nous la forêt est une émission réalisée en partenariat avec Forêt Alpine. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Raconte-nous la forêt. Aujourd'hui, nous recevons Anne-Claire Dromzé, accompagnatrice en montagne et conteuse de la compagnie Entre Deux. Bonjour Anne-Claire.
Bonjour Marion.
Alors pour commencer, Anne-Claire, dans Raconte-nous la forêt, nous aimons bien poser une première question pour un peu mieux te connaître. Si tu étais un arbre, quel serait-il ?
C'est une question pas facile. Parce que choisir, c'est renoncer.
Choisir, c'est renoncer. Mais disons que c'est juste pour montrer au moins un aspect de ta personnalité, pas tous.
Alors en fait, y a un calendrier celtique des arbres. Et moi, dans ce calendrier celtique, je suis le noyer. Le noyer, dont j'aime beaucoup le bois, qui est très solitaire, on dit qu'il n'y a pas de plantes sous le noyer. Donc il me correspond, mais pas complètement non plus. Et je dirais que l'arbre que je choisirais, il serait en fonction de la forêt où je me trouve. Par exemple, ici, c'est vrai que le mélèze dans les Hautes-Alpes, il est magnifique. Donc j'aurais tendance à choisir cet arbre-là. Mais j'aime beaucoup les hêtres aussi, leur aspect tortueux. Ouais, ça dépendrait. Un baobab en Afrique, ce serait chouette aussi.
tu veux dire que tu t'adaptes au territoire, finalement.
Ouais, voilà, alors. C'est ça. Je dirais ça. Ce ne serait pas un arbre, je m'adapterais au territoire où je suis. Ouais.
D'accord. Très bien, une belle entrée en matière. Et est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu plus ?
Alors, moi, je suis accompagnatrice en montagne depuis plus de 20 ans. J'avais commencé ma formation dans l'Aveyron, un département très beau aussi, très varié. Et puis, je suis arrivée dans les Hautes-Alpes et j'ai travaillé longtemps dans le ski de fond pendant 10 ans à Servières, donc en hiver. Et l'été, j'étais accompagnatrice en montagne, je suis toujours d'ailleurs. Et puis un jour, lors d'une formation pour les accompagnateurs en montagne, j'ai rencontré Louis Espinassou, qui est accompagnateur en montagne et conteur et éducateur à l'environnement. Et lors de cette formation, qui se passait sur les sentiers, il présentait les plantes, tout ce qui nous entourait, en commençant par une histoire. Et en fait, cette entrée en matière, elle m'a vraiment beaucoup plu, et puis touchée. Et ça a été le premier contact avec les contes, en fait. Et puis, voilà, la vie a continué. Je n'avais pas du tout prévu d'être conteuse. À un moment, je me suis retrouvée avec plusieurs contes autour des oiseaux. Et j'ai rencontré une conteuse qui s'appelle Florence Ferrin et qui m'a aidée à construire mon premier spectacle autour des oiseaux, qui s'appelle Un peu de vent dans les plumes, que je raconte encore avec, en solo et puis aussi en duo avec Jean-Benoît Blandin, qui fait partie de la compagnie. Donc voilà, aujourd'hui, mes deux activités principales, c'est d'être accompagnatrice en montagne et conteuse. Et j'aime beaucoup relier ces deux métiers lors de balades contées. Voilà, ça a beaucoup de sens pour moi de proposer des balades contées.
De mêler donc les deux.
Voilà.
Parce que, donc, toi, tu es devenue accompagnatrice en montagne il y a combien de temps, du coup ?
Eh bien, j'ai commencé ma formation en 2003. Je l'ai terminée en 2006. Et en fait, c'est un métier que je ne connaissais pas au départ. Moi, j'ai grandi en Champagne, donc pas du tout dans les montagnes, enfin la montagne de Reims, mais c'est une petite montagne. Et voilà, je savais que je voulais travailler dehors, que je voulais avoir mon bureau vraiment dehors. Ça, c'était important pour moi. Donc, je connaissais le métier de guide de haute montagne, qui me faisait rêver, mais dont, n'ayant aucune pratique de la montagne et aucune personne dans ma famille qui la fréquentait, ça semblait... un rêve, en fait. Et le jour où j'ai rencontré un accompagnateur en montagne et qui m'a parlé de sa profession, alors là, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire.
Ah oui.
Et ça s'est construit comme ça, en fait.
Tu avais quel âge ?
Et j'avais... alors moi, j'avais déjà passé des diplômes sportifs dans le sport, mais j'avais, je dirais, 25 ans.
D'accord.
Voilà.
Et là, tu y es allée.
Et là, j'y suis allée. Alors, pas par un chemin direct, en fait, parce que... Entre-temps, voilà, je voulais quitter Reims, où j'avais grandi. J'ai trouvé du travail dans l'Aveyron, dont je parlais tout à l'heure. Et là, je me suis formée. C'était des emplois jeunes avec toute une série de diplômes dans le plein air, donc en kayak, en escalade. Et puis, j'ai commencé l'accompagnateur dans les Cévennes, avec une association qui s'appelle le Merlet, et qui m'a amené beaucoup, beaucoup de choses. C'était des séjours itinérants dans la nature et avec un lien particulier, dans une écoute, que ce soit des enfants, mais aussi de ce qui nous entourait, du milieu dans lequel on était, qui m'a appris beaucoup et avec lequel j'ai commencé à passer mon accompagnateur en montagne. Et j'ai fait la dernière unité de formation qui est l'UF enneigé, donc qui n'est pas une mince affaire, parce qu'après on est apte à encadrer en raquette. Et je l'ai faite dans les Alpes. Et j'étais bien contente dans les Hautes-Alpes là, de finir cette formation ici, parce que n'ayant pas un parcours de montagne, en fait, une expérience de montagne de par ma pratique familiale ou personnelle, c'était bien que je fasse ça dans les Alpes. C'était voilà. Là, je me suis rendu compte des
conditions.
Ouais, des conditions. Ça m'a impressionnée d'ailleurs. Et quand j'ai eu mon diplôme, je me sentais pas capable d'encadrer des raquettes, en fait. Voilà, je me suis dit, mais des avalanches, la neige... Ouais, j'étais très impressionnée par le milieu alpin, finalement, qui m'avait fait rêver, mais voilà, dont je goûtais vraiment le côté alpin. Quoi.
Et du coup, ça t'a peut-être rassurée, donné une légitimité d'être ici et de faire cette formation ici.
Oui, oui. J'étais vraiment contente. Et donc, comme je ne me sentais pas de travailler comme accompagnatrice l'hiver... Je me suis orientée, puisque ici, quand même, l'activité est très saisonnière. J'avais ma place d'accompagnatrice en montagne l'été. Et l'hiver, j'ai passé le pisteur nordique en ski de fond.
Ce que tu disais après, qui t'a amené à travailler en ski de fond pendant plusieurs années.
Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé un emploi à Servières pendant 10 ans. Et j'ai appris beaucoup autour de la montagne, autour de la neige. Et ça m'a beaucoup plu de travailler à Servières. Et j'ai rencontré les serverins, et notamment Roger Brunet, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui m'a transmis beaucoup de son vécu, de son expérience, et très généreux dans le partage, dans la transmission.
Transmission que donc tu poursuis avec ton métier de conteuse. Juste avant de passer à cet autre aspect de ta profession, de tes professions, une question sur ce qui t'a attirée dans le métier d'accompagnatrice de montagne.
Alors, ce qui m'a attirée, c'était déjà d'être dehors, voilà, d'avoir ce bureau à l'extérieur où c'est vivant, en fait. Voilà, il y a le chant des oiseaux, le bruit de la rivière, un oiseau qui passe, des odeurs. C'était vraiment important pour moi de travailler dehors. Et puis aussi d'apprendre, parce que j'aime apprendre. Donc, c'était s'intéresser. Le champ est vaste, quoi. Il est infini, même, hein, autour des oiseaux, des plantes, de la forêt, des arbres. Et la géologie, c'est vraiment très, très vaste. Et puis de transmettre au public. Et ça m'a vraiment plu, ce côté-là, oui.
Et donc la transmission, je vais l'utiliser comme transition vers le conte. Peut-être pour introduire, tu peux nous expliquer ce qu'est une balade contée, puisque c'est comme ça, c'est ça aussi ton métier à travers le conte. Tu fais des balades contées et des spectacles.
Oui, c'est ça. Au début, le challenge pour moi, c'était de faire un spectacle.
D'abord le spectacle,
voilà,
plutôt.
C'était déjà de faire un spectacle, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc, Florence Ferrin, dont je parlais, m'y a aidée. Et puis après, je me suis formée en conte avec un conteur qui s'appelle Michel Hindenock. Et il y a des spectacles qui se sont construits comme ça, comme En route pour ton bouquetou avec Jean-Benoît Blandin. Et puis, à un moment, j'ai eu envie de revenir à mes deux métiers, c'est-à-dire de raconter dehors, comme je l'avais en fait entendu et connu, exactement. Et là, il y a eu l'Office de tourisme du Pays des Écrins qui a, alors je ne me souviens plus de l'année, mais ça qui a contacté des artistes avec des thématiques. et qui a demandé aux artistes, donc on était tous locaux sur des thématiques, de construire des balades contées. Et donc là, il y en avait une sur la forêt, autour des arbres. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Et donc, voilà, j'ai cherché des contes, construit un jeu d'observation. Et c'est venu comme ça. Et donc, les balades contées, comment ça se passe, une balade contée? Eh bien, on part pour une immersion, en fait. Moi, j'aime bien qu'elle dure 3 heures. Voilà, c'est un format qui peut peut-être rebuter au départ, de marcher pendant 3 heures. Je choisis avec beaucoup de soin mon itinéraire. Je suis très sensible à ce qu'il y ait un sentier, qu'il y ait des milieux différents, ouverts, plus fermés. Et puis, je vais prévoir des arrêts. Et à ces arrêts, je vais raconter une histoire. Et par exemple, autour des plantes ou des arbres, il y a déjà l'histoire. Et ensuite, on va parler de la plante ou de l'arbre qui est juste à côté de moi, à qui je raconte. Finalement, je ne raconte pas seule, il y a la présence de l'arbre ou de la plante. Et ensuite, on va glisser tout doucement de l'histoire au réel, c'est-à-dire je peux parler d'utilisation, des usages. Et puis souvent, il y a un échange qui va se faire aussi avec le public, parce que tout le monde a, voilà, notamment au niveau des plantes, il y a beaucoup d'échanges aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Tu utilises ça pour ensuite amener ton conte?
Alors, j'amène mon conte au début.
Ah oui, pardon. Tu fais ton conte.
Marche. Après, on s'arrête. Là, je raconte. Donc, il y a une petite formulette, mais on verra tout à l'heure. Mmh. Et ensuite, le conte se termine. Donc, il y a un moment comme ça d'entre-deux où on est chacun dans son imaginaire, le public comme moi. On est dans quelque chose de très, vaporeux, éthéré, en fait. Puis on va sortir de ça, mais tout doucement, et la balade donc, va se dérouler comme ça, dans ce climat-là. Mm. Donc j'y mets beaucoup de soin, beaucoup de douceur, et de la joie aussi. Hein, c'est vraiment une immersion, c'est un moment particulier, et que j'aime beaucoup partager. Et puis on est dehors. Donc, il y a tout ce qu'on ne prévoit pas. Un oiseau qui passe, le vent qu'on va entendre dans les feuilles, des arbres, tout ce qui est vivant. Quoi. Mmh.
Et pas vivant, du coup. Peut-être les pierres, la géologie,
Le toucher d'une écorce.
Tous les sens.
Ouais, tous les sens, voilà.
J'ai plein de questions, Anne-Claire. Je vais essayer de sélectionner. peut-être la première, beaucoup plus pratique. Tu disais au début que ça peut rebuter 3 heures. Mm-hmm. Finalement, on ne marche pas pendant 3 heures, en fait. Puisque c'est que 3 heures marche et compte compris.
Voilà, c'est ça. Là, j'en ai conçu des très, très lentes, c'est-à-dire les balades comptées naturalistes, où là, c'est vraiment un rythme de fourmi. On s'arrête, on s'arrête beaucoup, beaucoup, et on monte très, très peu. Là où, à l'automne dernier, j'ai créé une autre balade comptée qui s'appelle « Compte à marcher debout », où là, y a moins d'apport naturaliste et on va marcher, on s'arrête, il y a une histoire, on marche, on s'arrête, il y a une histoire. Plus rythmé. Ouais. Pour les gens qui ont vraiment envie de marcher, parce qu'il
y en a.
Il y en a, carrément, j'en fais partie aussi. Et plus sportive, on va dire.
D'accord. Mm. Et ensuite, donc, dans cette approche, même si c'est plus sportif, tu disais que tu choisis vraiment ton itinéraire, tu y prêtes attention. À quoi tu prêtes attention quand tu prépares? Parce que tu y vas, j'imagine. Oui. Tu vas repérer les lieux.
J'y vais souvent, j'y vais beaucoup de fois. Je ne sais pas combien de fois. J'aime bien y aller à des moments différents dans la journée, à des saisons différentes. Ça va être un arbre qui va... En fait, c'est comme trouver des petites bulles dans la nature où on se sent bien et où on s'arrêterait, en fait. Et ça, c'est très intuitif, en fait, comme sensation. Alors, il faut aussi prévoir l'espace du public. Hein. Voilà, aussi. Mais ça se fait lentement. Voilà, moi, j'aime bien y aller une première fois, puis y retourner, et puis encore y retourner. Et souvent, d'ailleurs, avant chaque début de saison, il faut y aller, parce que des fois, il y a une coupe de bois. Des fois, le champ dans lequel on a passé n'est pas fauché. Enfin, voilà, il faut toujours faire son repérage de toute façon avant la saison, enfin avant la balade.
Oui, puisque c'est mouvant finalement. Mmh.
Exactement,
tout ça.
Exactement.
Et tu arrives à identifier ce qui fait que toi, à cet endroit-là, tu vas avoir cette intuition. Enfin, tu parles d'intuition, donc j'imagine que c'est difficile, mais.
Oui, ben moi j'ai dans mon sac là, il y a plusieurs comptes. Et donc, je vais en sortir un selon le lieu. Voilà, donc j'ai un répertoire qui est vraiment très lié au vivant, que j'ai constitué au fil des années. Et c'est celui-là qui va sortir, quoi. C'est celui-là qui va, pour moi, aller avec ce lieu-là. Voilà.
Donc, c'est plutôt le lieu qui va t'amener à choisir ton compte,
oui,
et pas l'inverse.
Exactement, c'est ça. Ah, et ça, c'est important pour moi, oui.
D'accord,
oui.
C'est important.
C'est pas un copier-coller. C'est pas, j'arrive, paf, et je vais coller mon compte à cet endroit-là. Non, ça va être le lieu qui va m'inspirer.
Et dans tout ça,
oui,
quelle place a la forêt quand même, qui est notre sujet du jour. Bon, c'est le vivant, là, on parle quand même de nature et tout ça, mais quelle place a la forêt pour toi dans ce travail-là? Alors, pour l'instant, là, je parle plutôt des balades comptées, mais si tu veux amener sur les spectacles, je ne sais pas à quel point ça peut être lié, mais là, je pensais à ça surtout.
Ben, la forêt, oui, il y a plusieurs contes qui sont liés à la forêt. En fait, il y a une histoire de petites fourmis où on trouve les fourmilières là, magnifiques dans le Mélézin. Ça, c'est un endroit où s'il y a une fourmilière, ben, je vais raconter cette histoire-là, par exemple. Moi, ce que j'aime, par exemple, si on parle du Mélézin, qui est très présent ici, c'est déjà la douceur de la marche, puisque ce tapis d'aiguilles donne une ambiance très ouatée, en fait, hein, et très molletonnée aussi à sentir. Et puis la lumière de la forêt de Mélèze, hein, quand on y va au printemps, c'est magnifique, toute la végétation qui redémarre, les petites aiguilles de Mélèze, à l'automne aussi, enfin, c'est vraiment une forêt qui est très, très, très changeante. Et moi, j'aime l'entrée dans la forêt, ouais, c'est quelque chose qui est fort, je trouve, dans nos sens. Surtout ici en montagne, on est habitué à aller plutôt sur les sommets et être dominant, en fait, avoir une vue vraiment dégagée. Et bien en forêt, c'est une autre approche, avec beaucoup plus d'humilité, du coup, puisqu'on ne voit pas tout le paysage. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, on peut entendre des bruits qu'on ne reconnaît pas, et ça me plaît beaucoup. Et j'aime bien cette entrée dans la forêt. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si. Mais pendant que tu parles de ça, ça me fait penser à un conte dont tu me parlais avant qu'on enregistre cette émission, puisqu'on a eu un petit temps de discussion toutes les deux, où sur la fourmilière, il me semble. Enfin, je ne sais pas si c'est celui-là dont tu me parlais, mais en tout cas, tu m'as parlé d'un conte avec une fourmi, ça m'a intriguée.
Oui, alors celui de la fourmi qu'on raconte, qui est dans un spectacle qui s'appelle En route pour Tombouctou, qu'on joue avec Jean-Benoît Blandin, qui est musicien, et celui auquel je pense, moi, qui est lié au Mélèze, justement, qui est... tu veux que je te le raconte ?
Eh bien, volontiers, j'allais te demander si c'était possible de l'entendre.
Alors, pour faire sortir les histoires, il y a une petite formule.
Ah,
Marion.
Oui, d'accord.
Moi, je dis « écric », et toi, tu réponds
« crac ».
Écric ?
Et crac ?
Et l'histoire va sortir du sac. C'était l'automne, lorsque les feuilles des arbres changeaient de couleur. Lorsqu'elle devenait jaune, orange, rouge. À ce moment-là de l'année, les oiseaux se rassemblaient. Ils formaient des petits groupes, dans les champs, au bord des lacs, sur les toits des maisons, sur les fils électriques. Et puis un jour, tous les oiseaux s'envolaient. Ils partaient vers le sud, vers la chaleur. Et parmi tous les oiseaux, il y avait le merle. Il venait juste de s'envoler, le merle était dans le ciel, quand tout à coup, paf, il est entré dans un oiseau beaucoup plus gros que lui. C'était une cigogne. Elle, la cigogne, n'a rien senti. Mais lui, le merle, il est tombé, il est arrivé au sol, son aile était cassée, il ne pouvait plus voler. Alors les oiseaux qui étaient dans le ciel lui ont dit « Hé, le merle, il faut que tu te trouves un abri pour l'hiver, le froid va arriver, la neige. Trouve-toi un abri et nous, on revient au printemps. » Le merle, il était dans une forêt qu'il ne connaissait pas. Son aile était cassée, elle traînait par terre. Alors il avançait clopin, clopant avec son aile cassée. Clopin, clopant avec son aile cassée. quand il est arrivé au pied d'un arbre immense, magnifique. C'était un mélèze. Quand le maire l'a vu, le mélèze, il lui a dit « Mais est-ce que je peux faire mon nid dans tes branches? Toi, avec tes aiguilles, tu me protégeras du vent, du froid, de la neige. Et puis moi, eh bien, je chanterai pour toi tous les matins. » Le mélèze a réfléchi. Il a regardé le merle qui était tout en bas, au niveau de ses racines, et a dit « Ah non, 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 tu vas me casser les oreilles tous les matins. Moi, ce que j'aime, c'est le silence, alors file de là. » Le merle n'a rien demandé de plus. Il est parti clopin, clopin avec son aile cassée. Quand il est arrivé dans une clairière, là, il y avait trois arbres l'un à côté de l'autre, comme trois copains. Le plus petit des trois, c'était le genévrier, le plus piquant. À côté, il y avait le sapin et à côté, le pin. Alors, le genévrier, quand il a vu le merle, il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Le froid va arriver, la neige, qu'est-ce que tu fais là ?» Le merle a expliqué qu'il s'était cassé une aile, qu'il avait demandé au mélèze de l'aider et que le mélèze n'avait pas voulu, qu'il ne savait plus comment faire. Alors, le genévrier lui a dit « Mais tu sais, moi, sur mes branches, j'ai des aiguilles, mais elles sont très, très, très piquantes. Alors, pour faire ton nid, tu seras pas bien, mais sur mes branches, j'ai des petits fruits noirs. Et ça, tu pourras en manger tout l'hiver. Et puis, à côté de moi, il y a mon copain, le pin. Le pin, lui, il a dit, moi, mon tronc est tout tordu. Alors, pour faire ton nid, tu seras pas bien, mais sur mes pommes de pin, j'ai des graines que tu pourras manger tout l'hiver. Et à côté de moi, il y a mon copain, le sapin. Le sapin, lui, il a dit, « Eh bien, moi, sur mes branches, j'ai beaucoup d'aiguilles. Alors, si tu fais ton nid contre mon tronc, au creux d'une de mes branches, tu seras bien abrité du vent, du froid, de la neige. Allez, reste avec nous, le merle. » Alors, le merle s'est installé. Il a construit son nid au cœur du sapin, juste contre son tronc, au creux d'une de ses branches. Il mangeait les fruits du genévrier, les graines des pommes de pin, et il sifflait tous les matins. Puis l'hiver est arrivé. Les feuilles des arbres sont tombées, le vent du nord est arrivé, glacial. Il soufflait de plus en plus fort. Le vent du nord est arrivé au pied du mélèze. Il s'est enroulé autour de lui, puis il est remonté. Et quand le vent du nord est reparti, le mélèze, il n'avait plus aucune aiguille sur ses branches. Il était nu comme un ver de terre. Puis le vent du nord a continué son chemin. Il est arrivé dans la clairière où il y avait le genévrier, le sapin et le pin. Quand tout à coup, « Stop maintenant, ça suffit, le vent du nord !» Celui qui parlait, c'était le grand bonhomme d'hiver. Un géant, un colosse. Il avait des glaçons dans sa barbe, des glaçons au bout des doigts, et lui, il commandait au vent du nord. Alors le grand bonhomme d'hiver a dit, « Hé, vent du nord, je t'ai laissé t'amuser avec le mélèze parce qu'il n'a pas été très accueillant avec le merle. Mais ces trois arbres-là, le genévrier, le sapin et le pin, tu n'y toucheras pas. Allez, file de là, vent du nord. » Et le vent du nord est reparti. Le printemps est arrivé. L'aile du merle était réparée. Et depuis, dans la forêt, eh bien, le genévrier, le sapin et le pin, ils gardent leurs aiguilles tous les hivers. Ils restent tout verts, même en hiver. Alors que le mélèze, lui, eh bien, il les perd, il devient tout nu en hiver. Mais quand ses aiguilles repoussent au printemps, c'est l'arbre le plus doux de la forêt. Et quant au merle, eh bien, c'est fini les grands voyages. Maintenant, il reste chez nous et on l'entend siffler tous les matins. Et cric.
Et crac.
Et l'histoire retourne dans le sac.
Soleil, un rayon de soleil, un rayon soleil. Un rayon de soleil. Un rayon de soleil.
Raconte-nous la forêt. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Anne-Claire Dromzé qui vient de nous conter un conte. Alors, comment on dit raconter un conte sur la forêt. On a enchaîné avec une petite musique pour redescendre parce que c'est vrai qu'on se fait happer, comme tu disais tout à l'heure, par les contes. Donc ça, c'est un exemple de ce que, d'un conte que tu peux raconter pendant une de tes balades contées.
Exactement. Donc là, ça peut être au pied d'un mélèze, même si là, dans l'histoire, il n'a pas forcément le meilleur rôle. Mais voilà, c'est vrai que des mélèzes, ici, on a vraiment des gros, hein. On en voit des très, très beaux. Et moi, quand je raconte vraiment dehors, je ne suis pas seule, en fait. Il y a vraiment le soutien de l'arbre ou de la plante. Et ce que j'aime, c'est que le regard va être différent, en fait, autour de la plante ou de l'arbre, parce qu'on est parti dans l'imaginaire, on n'est pas dans l'intellectuel, et on va être touché ou pas, hein, mais on peut l'être vraiment de façon très forte, en fait. Moi, quand j'écoute des conteurs ou des conteuses, il y a des fois, je suis vraiment transportée, très émue, selon l'histoire, parce qu'elle va nous toucher différemment.
Et quand tu dis que ça va amener à... Enfin, qu'on voit un arbre, il y a le conte, et ensuite, on le regarde différemment après. Mmh. Alors là, le mélèze, c'est intéressant, parce que le mélèze, souvent, c'est l'arbre emblématique ici qu'on adore, et là, ça le remet un peu à sa place.
Oui, il descend un peu de son piédestal, là, oui. Mais voilà, moi, c'est un arbre que j'adore, et sa douceur, les couleurs... Et ces forêts qui sont vraiment très, très lumineuses. Le mélèze chez les Yakouts, donc qui est un mélèze qui est un peuple de Sibérie, c'est un arbre vraiment monde fondateur qui relie les ancêtres qui sont dans la terre, le tronc, et puis les dieux avec le ciel. Donc il y a vraiment, on retrouve dans beaucoup d'arbres dans les mythologies, des arbres fondateurs. Le frêne Yggdrasil, par exemple, c'est d'où les hommes sont apparus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fort. Et moi, j'aime bien cette idée-là.
Que l'arbre est fort.
Oui, que l'arbre est fort et que les hommes viennent des arbres. Enfin, je trouve que c'est une belle, une belle image. Et de toute façon, dans l'évolution, on est descendu des arbres, nous, hommes.
C'est vrai, c'est vrai.
On a le pouce pour tenir, voilà. Donc, on est liés. On est liés par beaucoup d'aspects. L'écorce et la peau, on peut voir vraiment des parallèles entre l'arbre et l'homme.
Est-ce que tu as l'impression que depuis que tu comptes, et peut-être, justement, là, tu parles de récits un peu, comment dire, fondateurs,
ouais, mythologiques.
Je ne sais pas si tu les connaissais avant ou si ton métier de conteuse t'a amené à les connaître, mais est-ce que tu trouves que ça a influencé ton rapport à la forêt, à la nature plus généralement, mais là, comme on parle des arbres, à la forêt?
Oui, 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 ça... Il bouge encore, mon rapport, parce que moi, j'aime lire, donc j'en lis énormément. Et là, lors d'un projet européen sur lequel j'ai participé, il y avait des regards différents. Il y avait la Norvège, la France et l'Allemagne de représentés dans ce projet. Et quand on est allé en Norvège, on sent que l'imaginaire lié à l'environnement, qui est très, très vaste en Norvège, il est vraiment fort, en fait. La forêt est habitée, en fait. Voilà.
Ah oui.
Ouais, on sent ça, je trouve. Ce qu'on a peut-être perdu, nous, ici, alors, si, il y a tout l'imaginaire lié à la forêt de Brocéliande, qui est très, très riche.
Oui.
Mais moi, je vais chercher ça, oui. Donc là, il y a des conteurs, ici, comme Joyce Ten, qui ont beaucoup étudié le répertoire. Il y a eu de la collecte, ici. Mais finalement, alors, moi, je suis qu'au début de mes recherches, mais il n'y a pas eu tant ce répertoire où la forêt est vraiment une entité et peuplée... d'être imaginaire, j'ai pas retrouvé ça, ce côté-là, en tout cas ici. J'ai plus se trouver dans des contes des peuples premiers ou voilà ou dans des contes bretons. Mais après, je suis qu'au début de mes recherches, c'est immense.
Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est en rapport à la forêt qui peut-être amène plus d'imaginaire ou en rapport aux conteurs et aux contes ou récits qui ont été écrits qui amènent l'imaginaire? Enfin. Je ne sais pas si tu vois ma question. Est-ce que c'est la forêt qui amène les contes ou est-ce que les contes peuvent amener l'imaginaire dans la forêt?
Mais la forêt peut amener l'imaginaire. Je trouve que là où l'imaginaire se déploie vraiment, c'est une forêt qui est riche, c'est-à-dire avec des vieux arbres, certains qui sont couchés au sol, qui sont recouverts de mousse, une diversité vraiment de formes, une odeur d'humus, des champignons. Je trouve que la richesse de la forêt dans sa biodiversité et la richesse de l'imaginaire sont liées, en fait. Et je pense que le rapport le plus juste, selon moi, avec la forêt, c'est celui des peuples premiers, où il y avait vraiment un équilibre, en fait, entre la forêt nourricière et l'homme qui allait puiser des ressources, mais de façon beaucoup plus équilibrée qu'à l'heure actuelle.
Ouais. Me dit-elle en me regardant intensément. Je vois, parce que ce projet européen, tu disais que vous avez été dans plusieurs forêts différentes, dans des pays différents.
Oui.
Bah, du coup, je suis assez curieuse d'en savoir plus sur ce projet, peut-être
oui.
En quelques mots.
Mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, et c'est en allant dans ces différentes forêts que je m'en suis rendu compte. Donc on a eu des propositions artistiques à chaque fois en France, c'était dans la forêt de Bosco, donc une très très belle forêt, en Allemagne et puis en Norvège. Et donc notre regard a évolué entre artistes, on était quatre artistes, et la proposition a évolué. Et en Norvège, je trouve qu'elle a eu vraiment son aboutissement, c'est-à-dire on a pu faire vivre au public comme un rituel dans la forêt. Alors ça paraît assez flou de dire ça.
Un peu chamanique.
Ouais, voilà, mais quelque chose de très respectueux, en fait. C'est-à-dire que le public c'est comme si le public était entré sur la pointe des pieds dans la forêt et était vraiment très silencieux, très respectueux. Et c'était très touchant, je pense, des deux côtés, du côté artiste comme du côté du public. En plus, c'était entre le passage entre le jour et la nuit, donc qui est vraiment un moment fort aussi, de silence, d'oiseaux qui vont chanter avec l'arrivée de la nuit. Et puis, où on perd du coup la vue, qui est notre sens quand même très dominant chez l'homme. Voilà, et j'aurais jamais pensé réussir à créer un rituel en tant qu'artiste. Et pourtant, c'est vraiment ce qui s'est passé. Voilà, donc ça, c'est très optimiste de se dire ça. Et nous, ça nous a beaucoup relié en tant qu'artiste, quoi. Alors tout ça, ça ne s'est pas fait comme ça. Il y avait évidemment beaucoup de préparation, beaucoup de discussions. Et on avait commencé cette proposition par un poème, d'ailleurs, de Jacques Prévert. Est-ce que...
Tu veux nous le...
Ah oui, je voudrais. Oui.
Alors, je ne vais pas l'écorcher, c'est un très beau poème que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Arbre ». En argot, les hommes appellent les oreilles des feuilles. C'est dire comme ils sentent que les arbres connaissent la musique. Mais la langue verte des arbres est un argot bien plus ancien. Qui peut savoir ce qu'ils disent lorsqu'ils parlent des humains? Les arbres parlent arbres, comme les enfants parlent enfants. Quand un enfant de femme et d'homme adresse la parole à un arbre, l'arbre répond, l'enfant entend. Jacques Prévert.
Très beau poème, je ne connaissais pas. Ça m'amène encore plein de questions. Déjà, sur cette image de l'enfant, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, que tu n'étais pas seule quand tu comptais, qu'il y avait présence des arbres ou des autres éléments de la nature autour de toi, comme s'ils étaient là et qui participaient aussi à compter avec toi. Toi, tu le ressens, mais tu penses que tu arrives à le transmettre, ça ?
Ben j'espère, hein. C'est vrai qu'une forêt, c'est un milieu de vie très très riche. Voilà, il y a les arbres, les plantes, le sous-bois, toute la vie sous terre qu'on imagine foisonnante, le sol. Moi, j'espère, ma petite part, créer un autre lien avec ce qui nous entoure. Ouais. Pas un lien intellectuel, mais un lien... sensible, en fait. Et puis de regarder, parce que finalement, quand on connaît, on regarde, on peut passer à côté d'une plante ou d'un arbre sans jamais le voir, en fait. Et puis s'il y a une histoire un jour sur cet arbre, là, d'un coup, il va apparaître dans votre paysage. Et voilà, c'est ça qui me plaît, moi. Il n'y a rien d'exceptionnel, en fait. Le merveilleux, il nous entoure au quotidien, mais c'est juste le voir à un moment. Et après, si on le voit tous les jours, ça, c'est nourrissant, en fait. Pour moi, c'est nourrissant. Et on a vraiment besoin de ça, de cet émerveillement et de ce...
Tu disais que pour toi, tout à l'heure, en me regardant intensément, que ça n'avait plus lieu, justement. Ça. Enfin, moins lieu, peut-être. Donc, c'est vraiment important pour toi de le retrouver.
Oui. Et puis de ralentir, en fait. C'est vrai que le temps, prendre le temps... de rêver, de se connecter à son imaginaire, qu'on a tous, qu'on soit enfant ou adulte. Je crois qu'on en a tous envie, parce qu'on a des vies effrénées, hyper connectées, et finalement, de se retrouver dans une forêt pendant 3 heures, ça devient rare, quand même.
Mais il y en a qui payent des bains de forêt, comme on les appelle, pour passer du temps dans la forêt.
Oui, finalement. Oui, oui. Aujourd'hui, au Japon, c'est vraiment une...
Oui, je pensais au
thérapie,
Japon.
Oui, et c'est vrai que moi, je me souviens, j'ai eu la chance d'aller au Japon, d'une forêt au pied du mont Fuji, où il y avait des énormes arbres au sol, comme si on avait eu peine à retrouver notre sentier, en fait, c'était avec mes enfants. Et à un moment, on s'est quasiment perdu, on a fait du tour d'ailleurs. Et l'accompagnatrice française...
Elle est perdue, elle a
pris une bonne leçon, et c'est super, quoi, voilà. Et voilà, elle était hyper impressionnante, cette forêt. Et on sentait l'imaginaire, pour moi, de Miyazaki, de tous ces... Voilà, les cinéastes japonais. On sent cette présence-là qui est forte dans les films qu'on peut trouver. Totoro, on sent ça.
Princesse Mononoke,
voilà,
tout ça.
Voilà, exactement.
Tout à fait.
Cette présence-là qui est très, très belle.
Et qui est même, d'ailleurs, imagée par des créatures.
C'est ça.
Tout ça. D'où l'imaginaire dont on parlait tout à l'heure.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre
prends garde où tu mets tes pieds.
Et toi, tu as l'air d'avoir cette sensibilité d'observer, comme tu disais, de voir le merveilleux dans juste ce qui est à côté. Et quelle émotion ça te procure, ça ?
Ah ben c'est une parenthèse enchantée. En fait, ça fait du bien. Quoi. C'est apaisant, c'est ressourçant. C'est une respiration.
Et tu as un retour, peut-être, des personne qui t'écoute quand tu comptes de tes spectateurs et spectatrices, est-ce que...
Oui, ce serait...
Qu'est-ce qu'ils ressentent, tu sais, ou pas ?
C'est difficile de parler à leur place, mais...
Mais t'as été à l'écoute aussi, puisque tu disais,
oui.
Toi aussi, que t'as entendu des...
Oui. Moi, en tout cas, ce que ça me fait, c'est que ça me... Déjà, ça me transporte, voilà, dans un imaginaire, quand j'écoute des conteurs ou des conteuses. Ça vient résonner, évidemment, dans un vécu personnel, en fait. Hein. Pour moi, c'est vraiment une nourriture, au même titre qu'on a besoin de ça, en fait. Surtout dans un monde où il faut garder de l'optimisme et de l'émerveillement, parce que sinon, on ne sait plus comment se lever le matin, quoi. Voilà, je pense que c'est vraiment important. Hein.
Et tu penses que tout le monde a accès à ça ? Parce que toi, t'es quand même déjà sensibilisé à cette écoute, à ce regard. Peut-être que c'est de ton caractère aussi. Est-ce que tu penses que tout le monde peut avoir accès à ça ou est-ce que ça peut plaire à tout le monde finalement ?
Je pense que tout le monde a accès à ça. Mais peut-être il faut juste avoir le temps de s'y connecter en fait. Voilà. C'est une autre connexion.
Oui, c'est ça. Une autre forme de connexion. Parce que toi, dans ta vie personnelle, hors de ton travail, du coup, tu vas en forêt aussi ?
Oui, moi, quand je sens que je suis trop devant mon ordinateur, là, je sors de chez moi et je vais marcher près du petit canal qui est juste à côté de chez moi. Et je suis tout de suite dans la forêt.
Tu vas pour ça,
pour
te ressourcer.
Ouais. Et puis là, je vais me faire attraper par un oiseau, j'entends un pic, ou je peux m'asseoir, ou je regarde la forme d'un arbre.
J'allais te demander à quoi tu prêtes attention, donc en fait, tout ce qui se passe autour de toi.
Oui. Ça me sort de ma rumination, en fait, dans laquelle je suis, ou de mon travail, à me dire, bon, il faut encore que je fasse ci, ça, ça, ça. Et c'est vraiment une parenthèse enchantée. J'ai besoin de ça, ouais. Et quand je le fais pas assez, je sens que ça va pas, quoi. Il faut que j'y aille, ouais.
Et c'est quoi, c'est alors tu vas...
Ouais, c'est un peu, t'en as marre, t'es une mauvaise poêle, tu ramines,
Et ça t'apporte ça, ça t'apaise, en
oui,
fait.
Oui, ça m'apaise complètement. Ah oui, je sens, c'est direct.
Ah oui.
Mais c'est vrai qu'ici, on a la chance facilement de s'offrir ça, en fait. Mais... Pour moi, c'est vraiment important, ces îlots de verdure dans les villes, ils sont cruciaux. C'est-à-dire que c'est, les arbres, c'est des climatiseurs naturels et on a tellement besoin, quoi, de bitumer. C'est horrible, en fait. On s'épuise, on se tire une balle dans le pied. Hein.
Et ça t'inquiète, ça, cette évolution-là?
Ouais, des fois, ça me touche vraiment de me dire, mais... Où est-ce qu'on va, quoi, voilà. Mais en même temps, il y a beaucoup d'initiatives et puis de beauté aussi. C'est ça, je pense qu'il faut regarder. Je pense au film de Vincent Munier. Voilà, c'est. Oh, enfin, moi, je suis ressortie nourrie, quoi, très touchée. Voilà, ça fait du bien. Quoi.
Ouais. Et tu penses que il y a des évolutions positives possibles alors, puisque là, tu disais c'est volonté de bitumer, donc que ça t'inquiète. Et en même temps, là, tu retournes ton regard vers le positif. Donc, c'est-à-dire que tu vois une évolution positive possible. Et quelle serait-elle?
Oui, il y a beaucoup d'initiatives. Et il faut qu'on regarde ça. Sinon, faut qu'on agrandisse cette lumière-là et être vigilant à ce qui se passe, en fait. Parce que c'est vrai qu'on peut être pris dans un tourbillon et se dire, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Comment... Mais je pense qu'on peut tous faire quelque chose, quoi. C'est garder des braises allumées pour faire des petits feux, ouais. Enfin.
Toi, t'as le sentiment de pouvoir agir?
Oui, enfin, je fais ce que je peux, quoi. Voilà.
Avec l'imaginaire, alors,
voilà,
ou à d'autres niveaux?
Ben, dans mes balades comptées, oui, puis dans les spectacles. C'est vrai que les spectacles, ils peuvent être joués, les balades comptées. Pour l'instant, j'en ai fait beaucoup par ici. Là, je vais aller sur d'autres territoires cette année. Mais moi, je pense qu'on peut tous être touchés. On a tous cette sensibilité-là.
Mais être touché, ça veut dire agir?
Ben, ouais,
j'ai l'impression que c'est ça que tu...
En tout cas, on protège mieux quand on connaît et quand on est touché. Quoi. Quand ça devient inacceptable, ben là, on va agir. Enfin, c'est un peu flou ce que je raconte, mais comment le dire?
Pas tant, je pense. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un discours, comme tu disais, avec Vincent Munier, avec les Miyazaki, qu'on le voit aussi à grande échelle.
Oui. Il faut qu'on regarde ça, oui. Plutôt que les guerres, les Trump, il y a des moments, je trouve que on allume la radio le matin, il faut s'accrocher quand même, pour se dire qu'on va passer une bonne journée.
Oui.
Donc en tout cas, moi j'ai besoin de ça. Je ne pense pas être la seule.
En tout cas, ceux qui viennent et qui viennent participer aux balades comptées en ont sûrement aussi besoin, sinon ils ne seraient pas là.
Oui, après les raisons, c'est marrant, des fois les raisons sont différentes. Là, par exemple, les balades comptées en raquette cet hiver, ça va être hyper tranquille en raquette. La balade d'initiation en raquette, parce qu'en effet, le rythme est très très lent. Quand il y a des enfants, on va vite vers le compte. Alors quand on est adulte, on y va moins, parce qu'on se dit que ce n'est pas pour nous, alors que pas du tout. Donc, voilà, les raisons sont multiples pour se retrouver sur une balade comptée. Mais je trouve aussi que l'hiver, en fait, la neige et le merveilleux des contes se marient bien. On est dans un univers merveilleux. C'est ma deuxième saison d'hiver où j'ai mis ça en place, donc ça prend tout doucement. Mais je trouve que c'est aussi un autre cheminement, quoi.
Oui.
Une autre respiration.
Oui.
De faire des balades comptées en hiver en raquette. On est dans autre chose, de prendre le temps, de s'offrir une balade en forêt et d'avoir des moments vraiment d'écoute, quoi. Voilà, écouter la rivière, écouter des histoires, s'écouter entre nous.
souvent le moment de la neige, c'est aussi un moment où quand même on est ouvert à ça avec tout. Bon, peu importe ce qu'on en pense, mais quand même, il y a Noël, il y a un peu ce merveilleux qui est là de notre calendrier à nous aussi. Ça amène ça aussi, je trouve. On arrive vers la fin de cette émission, Anne-Claire. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'aurais pas amené que tu aimerais partager?
Maintenant, on a parlé de beaucoup de choses, Marion. Tu m'as emmenée dans ton univers aussi.
J'ai quand même trois questions de fin. La première, est-ce qu'il y a un idéal de la forêt qui t'inspire? Alors, ça peut être du réel, mais ça peut être aussi de l'imaginaire. Là, j'ouvre la porte de ton monde, mais peut-être que...
Bah, ce serait une forêt vraiment très diverse, avec des grands arbres, des arbres au sol, de la mousse. Pas trop une forêt humaine, en fait, où l'intervention humaine se verrait. Une forêt riche, mais avec une richesse de diversité. Ça, ce serait ma forêt idéale. Et si on pouvait la trouver vraiment plus souvent, cette forêt, en fait.
Ce serait super.
Garder des îlots comme ça.
Et ensuite... J'ai deux phrases à finir. J'ai un secret avec la forêt qui est...
Alors, moi, je renverrais Je pense qu'on a tous des secrets avec la forêt et j'invite chacun, chacune à aller chercher cette relation très intime qu'on peut avoir avec la forêt. Moi, c'est ma parenthèse enchantée, c'est mon lieu de ressources, en fait.
Et enfin, le message que j'aimerais transmettre est...
De continuer à s'émerveiller, ouais. Ce serait ça.
Merci Anne-Claire.
Merci Marion.
Et bien, merci aussi auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 mois pour le prochain Raconte-nous la forêt. Votre émission Raconte-nous la forêt est à retrouver tous les premiers samedis de chaque mois à 9h et en rediffusion les dimanches à 19h. Elle est également disponible en ligne sur le site de Fréquence Mistral, Briançon.